Vincent Fouché, bonjour. Vous dites que les groupes djihadistes dans le lac Tchad ont bénéficié de conseils idéologiques et opérationnels de l'État islamique. En sait-on davantage sur le contenu de ces formations?
Avant même de prêter allégeance à l'État islamique, Aboubakar Shekau était engagé dans des discussions avec l'État islamique sur la doctrine. Aboubakar Shekau a dû produire le credo de l'organisation qui a été validé par l'État islamique. Et puis, il y a eu des conseils tactiques, hein, parfois assez précis, mais aussi des conseils matériels, comment fabriquer, par exemple, des munitions à partir d'obus, hein, comment fabriquer des balles de AK-47, comment utiliser un drone non armé, hein, un petit drone commercial. Aussi des conseils plus structurels, comment organiser l'armée, mettre en place un service de renseignement, enfin sur toute une série d'aspects, l'État islamique a fait passer des messages. Et il l'a fait à la fois à distance, avec notamment des vidéos, hein, des tutoriels, et puis aussi un peu de près, puisqu'il y a eu au moins une fois une équipe de plusieurs membres de l'État islamique, dont un apparemment était en provenance de Libye, qui est venu donc passer plusieurs mois auprès des djihadistes du lac Tchad pour les observer et puis pour les former.
Qu'est-ce que cela a changé dans la stratégie adoptée par ces groupes djihadistes dans le lac Tchad?
Le changement n'a pas été immédiat sous Shekau parce que Shekau était très réticent à cette immixtion de l'État islamique. Donc Shekau les a, disons, a contenu un peu leur mise en œuvre, l'a limité. Quand le mouvement de Shekau s'est cassé en deux, hein, en 2016, la branche dissidente qui est restée sous le drapeau de l'État islamique, elle a mis en œuvre ses suggestions de manière assez forte. Et on a bien vu d'ailleurs que ça s'est accompagné d'une amélioration de son efficacité. Hein, et c'est aujourd'hui la branche la plus active, la plus efficace. Le groupe de Shekau est vraiment beaucoup moins significatif au plan militaire, beaucoup moins dangereux pour l'armée nigériane que l'ISWAP.
Quelle différence justement note-t-on entre l'ISWAP et Boko Haram sur le terrain?
Il y a des symptômes très très spectaculaires, hein. Par exemple, le comportement face aux civils est très différent. Pour Aboubakar Shekau, tous les civils qui ne sont pas ses fidèles, y compris s'ils sont musulmans, sont des cibles légitimes. Pour la faction liée à l'État islamique, il s'appelle l'ISWAP, mais on essaye de ménager les relations avec les civils musulmans parce que on en a besoin pour commercer, on espère éventuellement à un moment ou à un autre les recruter. Enfin, voilà, on ménage beaucoup plus les musulmans non affiliés. On n'utilise pas de jeunes femmes pour mener des attentats à la bombe. Hein. On est beaucoup moins violent. On concentre l'effort sur les militaires, hein, même s'il y a, quelques opérations assez spécifiques contre des civils. Enfin, on a une autre manière de procéder. Et puis, on est beaucoup plus efficace. Hein. Les pertes militaires ont beaucoup monté à partir de 2016 et c'est largement du fait de l'ISWAP.
D'après les témoignages que vous avez recueillis, l'État islamique n'envoie pas directement des armes, mais de fortes sommes d'argent, entre 10 000 et 100 000 dollars toutes les 2 semaines. Sait-on à quoi cet argent a servi?
Je dois préciser, hein, ces entretiens parlent de la situation jusqu'au début de l'année 2018, hein, le moment où les derniers de ces repentis ont quitté l'organisation. Alors oui, effectivement, il y a eu des transferts financiers, il n'y a pas eu de transfert d'armes. Les armes, elles sont prises localement, hein, lors des combats contre les forces des États du lac Tchad. Et cet argent, il sert à acheter des fournitures, du matériel électronique, des véhicules, de l'essence. Il sert aussi à racheter aux combattants leur part du butin, puisqu'en fait les combattants ont une part du butin, une part des armes et des véhicules s'ils saisissent au combat, et donc l'organisation doit, enfin, en rachète une partie aux combattants pour alimenter son arsenal central.
Quand on regarde justement ce système adopté par la branche ISWAP, est-ce que ce système qui est finalement beaucoup plus organisé, voire même entre guillemets ancré dans les villages, est-ce que c'est pas ça aujourd'hui le nœud des résistances auquel la force multinationale mixte se heurte sur le terrain, dans le lac Tchad?
Alors, c'est évidemment une des difficultés, hein, c'est que maintenant, mais ils font face à une force beaucoup plus professionnelle qui fonctionne sur la base d'une armée permanente et non plus d'un modèle un peu plus milicien ou cosaque, si on veut, qui était le modèle des forces de Shekau. Donc, des gens qui sont mieux entraînés, on n'utilise plus d'enfants soldats, les unités sont mieux structurées et puis il y a effectivement cette base fiscale qui permet de tenir l'effort. Alors, voilà, c'est beaucoup plus difficile pour les États du lac Tchad de mener le combat.
Vincent Fouché, merci beaucoup.
Merci.